Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et puis comme j'ai été latéralisé du côté droit, puis je pense que c'est là où je me sens le mieux.
Non, non, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est pour vous. Ça vous donne du pain à moudre là-dedans.
J'essaie d'apporter des idées. Voilà. C'est ça qui m'importe. Et c'est pour ça que je suis là, à l'afterfoot, qui est la messe du football.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et oui, la messe du football. C'est comme ça que Frédéric Thierrier a rebaptisé l'after hier. Messieurs, dames, on est là jusqu'à minuit. Dans l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Stéphane Guy, bonsoir.
Citoyen, bonsoir.
Et Daniel Ariolo, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Est-ce qu'il y a un vice-capitaine dans l'after, Gilbert? Je me posais la question, je t'aurais dit. Combien
il y a de vice-capitaine? Non, capitaine,
le capitaine, c'est Gilbert.
En fait, on sait qu'il y en a.
Combien il y a de vice-capitaine?
Finalement, à l'arrivée, on en a quatre.
Ah, on a quatre capitaines.
Ouais, Gilbert a pas osé regarder.
Il n'y a que des vice-capitaines. Moi, je m'inspire des plus grands clubs.
Il n'a pas osé regarder. Ah, non, il n'a pas osé me regarder pour me dire que tu es plus tout seul.
Tu es vice-capitaine. Tu es vice-capitaine. Florent Gautreau est vice-capitaine.
C'était que moi.
Ah,
et après, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres.
Tu ne savais pas que les autres l'étaient aussi.
Mais je ne sais pas qui est Mbappé dans l'histoire. Il paraît que c'est Oussem.
Ah là, Oussem n'est pas vice-capitaine, il est encore dans Génération After. Là.
Ah d'accord.
Ah, Oussem, c'est Zaïre Emery. Tu vois. Ou El Shaddai Bichabou.
D'accord.
Bref.
Ah, comme tu t'es lâché sur le nom là.
El Shaddai Bichabou.
Comme ça, t'as sorti ça.
Ah mais je le travaille depuis un moment.
Tu l'as bossé, Gilbert.
Incapable ouais. d'être fluide sur ce genre de nom.
Bah, c'est facile, vas-y. El Shaddai Bichabou.
El Shaddai Bichabou.
Bichabou.
Bichabou. El Shaddai Bichabou.
Mieux. Mais pas top encore.
Là, tu vois, je suis pas fluide du premier coup. Là, toi, t'es.
Pourtant, t'as connu commentateur. Hein. On s'en souvient d'ailleurs.
On a même les dossiers.
Ah oui. Ouais. Ah, c'est ça, dans nos métiers, il y a des dossiers, de toute façon.
Ouais, t'as jamais évalué les dossiers de Daniel sur ses commentaires?
Et je crois qu'il a entendu et ça se passait d'évaluation, je crois. Non, enfin, d'abord, c'était tout début. Hein.
Ouais, exactement. C'est ce que j'allais te dire. C'est si on sortait des commentaires des uns et des autres à leur début, on ne ferait peut-être pas les malins.
Et tu sais que tellement c'est pas forcément une période au tout début qui m'a vraiment marqué. Je crois que c'est grâce à Nico Jamin que j'ai découvert ce passage. J'avais complètement oublié. Bah, figure-toi, je n'en avais aucun souvenir. J'ai commenté la première sélection de Messi avec l'Argentine. J'avais aucun souvenir.
En plus,
il a pris un carton rouge. Alors, c'était un Argentine, je sais pas quoi. Franchement, j'ai oublié. Première sélection de Messi, il prend un carton rouge dans le match.
Donc, jusqu'à l'année 2006,
il a ses petits cheveux longs. Ouais. 2004-2005. Et je commentais le match avec Romain Delbello.
Bon salut.
Aux États-Unis, c'est ça. Voilà, je n'avais aucun souvenir de ça. Et c'est.
Et tu sais ce qu'il fait, Romain Delbello? Il a un métier incroyable parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est très compliqué pour un journaliste français de travailler aux États-Unis. On peut difficilement trouver de piges dans les journaux américains, par exemple. C'est tout le problème du travail immigré aux États-Unis. Hein. C'est pas seulement le point journaliste. C'est beaucoup plus compliqué que chez nous. Et Romain, il travaille pour Le Monde, c'est-à-dire qu'il est l'alerte, la vigie du Monde la nuit. Dès qu'il se passe un truc dans Le Monde la nuit, forcément à Paris, les journalistes dorment, c'est lui à Los Angeles, avec le décalage horaire, qui assure les correspondances. Donc si cette nuit, je ne sais pas, une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bonne nouvelle cette nuit? Poutine meurt à 4h du matin, eh bien Romain Delbello sera celui qui fera sans doute la première dépêche sur le fil du Monde.
Ouais.
Voilà. Ouais. En plus de ses activités, il continue aussi à piger pour des médias sportifs. Mais il remplit notamment cette mission-là.
Étonnant. Je ne savais même pas que ça existait, ça.
Ah ouais.
La première sélection de Messi, c'est contre la Hongrie.
Donc c'était Argentine-Hongrie que je commentais.
Bah écoute.
Quelle date alors, Gilbert?
Attendez, là j'ai les images sous les yeux. Je vais vous retrouver ça.
Il a le numéro 18, ça je me souviens.
Oui, exact.
Il a le numéro 18, je me souviens. Il prend un carton rouge.
Ça me rassure parce que j'ai un maillot chez moi qui est soi-disant un maillot de Messi avec l'Argentine, où effectivement il a le 18. J'ai toujours eu un doute de savoir s'il était vrai ou pas,
Vrai. C'est ça. Et t'as pas la date, 2005 ou 2004?
2005.
C'est ça.
2005. J'ai pas la date exacte.
2005, donc il était même pas encore titulaire au Barça. Il était déjà en équipe d'Argentine.
Un an avant la création de l'After.
Voilà.
Il
y a des mecs qui disent normalement tu dois te souvenir d'un truc comme ça. Je m'en suis presque voulu de pas m'en souvenir. Je me suis trouvé.
Tu as une bonne mémoire, surtout que tu as une bonne mémoire des matchs.
Oui.
Moi, il y a des tas de matchs.
C'est ça qui m'a étonné. Je m'en suis vraiment voulu. Comment je ne peux pas avoir en tête d'avoir commenté ce match-là? C'est fou.
Alors, le programme dans les deux heures qui viennent, les gars. On va parler de l'OM. On va prolonger le mini-débat que Génération After a fait il y a quelques instants, là, sur le mercato de l'OM, avec cette question, Longoria est-il en train de rater son mercato? Il y a un truc étonnant, c'est que là, il y a des joueurs qui disent, bah non, Marseille, non, nous intéresse pas. Mofi, là, ce soir, il y a des infos qui arrivent d'Italie concernant Ilic, qui était annoncé à Marseille pour la saison prochaine et qui aurait choisi plus un autre club. Je vous donne les infos dans quelques instants et on va en débattre. Plus les autres infos mercato du jour, évidemment. Puis après, on partira sur un after très international ce soir. Un mot sur ce qui se passe en Italie autour de la Juve, où après les points retirés, on découvre qu'il y a des malversations financières qui ont été organisées avec les joueurs pendant le Covid. Pour échapper à l'impôt en Italie, plus des nouvelles affaires de racisme, cette fois à Rome. Et puis à 23h, l'Argentine au programme, comme convenu. Georges Quirino Chavez sera là, vous savez qu'il vit à Buenos Aires. Il est de passage à Paris, il a choisi sa semaine. Hein. La semaine où il fait 0 degré et ciel bas, brouillard, voilà, c'est bien. Alors que la baie fait 35 en ce moment. Bien joué, Georges. Il sera là pour nous expliquer un peu l'incompréhension en fait entre Français et Argentins, là, les chambrages, tout ça, puis le foot en Argentine, comment il vit ça, les clubs dans tous les quartiers. Enfin, ce sera passionnant tout à l'heure avec Georges qui sera avec nous. Le 32-16 est ouvert pour en parler. Et puis on aura également Fred Hermel en fin d'after tout à l'heure parce qu'il y a un match en ce moment entre le Real Madrid et l'Atlético, derby madrilène en Coupe du Roi en quart de finale, et c'est l'Atlético qui mène 1-0, figurez-vous, dans ce match. Donc je vous tiens informé dès qu'il y a une évolution de score. Tout à l'heure, il y a un autre match. Bilbao a gagné sur le terrain de Valence. Donc, Bilbao est qualifié. Juste le compo du Real, c'est grosse équipe. Hein. Benzema, Vinicius, Modric, Camavinga est titulaire. Ferland Mendy est également
C'est blessé, Ferland Mendy.
Ah, il s'est blessé tout à l'heure. Ah oui, il est sorti, exact.
Il est sorti, ouais.
Ah, ça m'a échappé.
Grosse blessure, a priori.
Voilà, donc je vous tiens informé de l'évolution du score. Il y a aussi Benfica qui joue ce soir, je crois, en championnat. Oui, les Portugais ont inventé le championnat le jeudi soir. 2-0 à la mi-temps pour Benfica à Passos de Ferreira. Voilà, je sais pas où c'est, Passos de Ferreira. Ah si, c'est au nord du Portugal.
Ah ben, c'est de Porto.
Ça s'intéresse, avec Nico Villas qui nous en parle. Oui, alors l'OM, allons-y. Alors, je vous donne les infos avant que chacun puisse donner son avis. Et le 32-16 est ouvert, supporter marseillais. Parce que mine de rien, là, Longoria, qui est un expert S-Mercato, on sait que c'est ce qu'il aime faire le plus. Et rappelez-vous, on vous racontait il y a deux jours qu'il était allé à Lorient faire un aller-retour pour organiser un échange Mofi-Dieng avec peut-être de l'argent et tout ça. Enfin, tout ça est en train de foirer complètement puisque Mofi ne veut pas aller à Marseille. Et l'OM ce soir n'a plus d'espoir de le voir arriver. D'ailleurs, Marseille a décidé de ne pas insister. Il dit bon, si le gars ne veut pas venir, il ne veut pas venir. On ne va pas non plus s'accrocher. Voilà. Et dans l'autre sens, à Lorient, vous savez qu'on a ressorti le fameux dossier du genou de Dieng qui avait fait foirer son transfert à Nice. Il y a quelques temps de ça. Alors à Marseille, on dit ouais, mais c'est peut-être un moyen pour Lorient de gagner un peu de temps ou de gratter un peu de sous sur le prix. Nous, on est confiants. Il n'y a pas de problème avec le genou. D'ailleurs, il a joué récemment Dieng. Donc voilà la situation.
Ça m'a rappelé une histoire, ça, d'ailleurs, qui est liée à Lorient. C'est que quand Aboubakar a percé à Lorient, Vincent Aboubakar, le Camerounais, qui était exceptionnel à Lorient quand il a percé, on a très vite dit ça dans le monde du foot. Attention, il a un genou, la carrière sera limitée. Bon, tout de suite. Hein, et bon, on est 10 ans après ou 15 ans après, je sais pas.
Il joue toujours.
Voilà. Vincent, on est au moins 12 ans après, puisqu'il a fait la Coupe du Monde 2010. Donc, c'était avant. Donc, voilà. Il est toujours là. Il est toujours un club. Donc, les histoires de rumeurs autour des blessures de genoux dans le foot, c'est toujours un peu douteux.
Voilà. Donc, pas. Voilà. Enfin, sauf si là, on s'en sert comme d'une espèce de prétexte dans les négos. Bon.
Alors.
Attends, j'ai pas fini. Donc. On en était il y a 48 heures.
Pierre Tegnell, il est chaud.
Ben non, mais il faut donner toutes les infos.
Vas-y, mais j'ai rien dit, moi.
Il y a 48 heures, on donnait le truc comme quasi fait. Longoria s'est déplacé. Super quand il se déplace en général. Bon, au final.
Éloge de Daniel. Moi, j'ai écouté l'after.
Peut-être que ni l'un ni l'autre ne va se faire. Juste sur Mofi, quand même, pour être complet. Nice est toujours confiant, mais là aussi, rien n'est fait pour l'instant. Négociation en cours entre Lorient et Nice. Nice ne veut pas surpayer. Lorient bluffe en faisant croire que ça ne les dérangerait pas de le garder. Enfin, Nice dit que c'est du bluff. Voilà.
Il est dans le groupe, l'orienté demain pour jouer contre Rennes, Mofi.
Et puis, alors voilà. Et puis, donc le cas de Ilic, jeune joueur que Longoria veut également recruter, mais alors plutôt avec stratégie saison prochaine. Et là, ce soir, on apprend en Italie qu'Ilic, lui, a choisi d'aller là maintenant au Torino. Alors bon, s'il va maintenant au Torino, c'est pas pour aller à Marseille dans 6 mois, a priori. Ça ferait deux dossiers, là, deux joueurs qui, en gros, tourneraient le dos à l'OM. D'où la question, est-ce que Longoria est en train de rater son mercato ?
Avec une précision, avant que Daniel développe son idée, pourquoi l'OM et Longoria sont aussi actifs sur ce marché d'hiver ? Ça peut surprendre, parce que tout va bien à Marseille, ils n'ont pas besoin de s'affoler, ils ont plus de compétition en cours, etc. Mais il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête marseillaise, c'est le transfert de Gueye, qui pourrait leur valoir, peut-être, on ne sait pas comment ça va évoluer, interdiction de recrutement, peut-être pour le prochain mercato d'été. Donc je pense que dans l'idée quand même des dirigeants marseillais, il y avait cette idée d'anticiper cet hiver et de faire des coups qui étaient quand même, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont du mal à les boucler, qui étaient presque surdimensionnés pour un mercato d'hiver.
Lundi, comme tu disais Stéphane, effectivement, à juste titre selon moi, je disais beaucoup de bien de Pablo Longoria. Et...
c'était pas ironique parce que j'aurais dit à peu près comme toi.
Absolument, et voilà. De toute façon je ne retire absolument rien au compliment sur sa gestion, ouais. Parce que jusque là sur le marché des transferts il n'y a pas beaucoup de ce genre d'échec là sur les gars qu'il a envie de faire venir, et il se trompe peu, et puis de toute façon c'est un marché où tout le monde se trompe, et dans le contexte actuel, quand tu vois Lyon, quand tu vois ce que fait Campos à Paris, on n'est pas une erreur près à droite à gauche. Là effectivement je suis très surpris, très présomptueux de ma part, la mienne, je ne sais pas si Longoria l'a été également, de considérer que ça se ferait très facilement en se déplaçant, comme en plus il avait la monnaie d'échange, Dieng, Lorient OM, c'est plutôt deux clubs qui ont l'habitude de bosser ensemble, Mofi entre OM et Nice. J'ai dit, à partir du moment où l'OM entre dans la danse, évidemment qu'il choisira l'OM, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et pas dit d'ailleurs qu'il aille à Nice. Ce qui est encore plus fou dans toute cette histoire.
Exactement.
C'est pas complètement fait non plus ça. Mais qu'ils disent non à l'OM dans ces conditions, honnêtement, j'étais à des années-lumière de pouvoir le penser. Et vraiment, sincèrement, pour moi, Longoria allait réussir ce coup-là. Alors c'est pas l'échec de l'année, encore une fois, ça arrive. Je sais pas, j'ai su qu'il y allait et que ça allait se passer. Pour moi, c'est un peu comme si au Monopoly, je te donne rue de la paix contre le Courbe, tu vas pas dire non. Et pourtant, il a dit non.
Les habitants de la rue Le Courbe, quand même, Daniel, s'il te plaît.
Rue de la paix, c'est un peu au-dessus. Mais bon. Là, j'en suis encore à me demander. Et j'ai pas d'explication pour l'instant. Je pense qu'on en aura dans les jours qui vont venir, où les langues vont se délier. On va savoir pourquoi ça a pas pu se faire. Je suis encore très surpris ce soir d'apprendre, puisque là maintenant c'est officiel. Mofi, alors que je l'ai dit ici et sur Twitter, pour moi c'était acté. Je pensais qu'il irait à l'OM. Et pour le jeune joueur, alors tu disais c'est Torino et tout, oui ils sont dans la merde aussi, on est plus près d'un 90-10 dans le mauvais sens aujourd'hui. Donc sur ce mercato d'hiver qui n'est pas terminé, attention, parce que je pense que jusqu'au bout et jusqu'à mardi soir minuit, Pablo Longoria va travailler pour trouver une solution, et notamment dans le secteur offensif, parce qu'il veut
neuf,
il veut un joueur offensif, ça c'est sûr. Je ne sais pas pour l'instant qui il a envie de faire et sur quel dossier il a envie d'avancer. Donc, il se passera normalement quelque chose. Mais sur ces deux dossiers, on est en situation d'échec. Il y a quelques mois, il a réussi à faire Malinovski, qui était une belle réussite. Bon, ben voilà, écoute, ça nous surprend que quelqu'un qui a l'habitude de réussir se plante. C'est un échec. Il n'y a pas d'autres mots à dire là-dessus, effectivement. On sait tous.
Après, on rappelle les règles du jeu pour Longoria. C'est pour ça que c'est un échec relatif, parce que c'est quand même à somme quasiment nulle.
Il y a quand même eu Malinovski pendant ce mercato.
D'abord, il y a eu Malinovski, qui est un gros coup effectivement à l'échelle de l'OM et de la Ligue 1. Et puis, il n'y a pas l'échec ouvert. C'est pas Nice. Hein. Nice, il y a échec ouvert. Donc, je vois pas l'intérêt de Mofi d'aller à Nice par rapport à Marseille aujourd'hui.
À part
l'intérêt qui est le seul intérêt qui vaille dans le foot, on le répète émission après émission, quel poignant.
Exactement.
Qui est le fil conducteur de tout.
Ah, il peut aussi y avoir parfois des histoires d'agents. Hein. Si par exemple l'agent de Mofi, c'est une supposition que je fais, par exemple à une promesse de commission ou quoi supérieure dans un club ou dans l'autre, il peut aussi pousser son joueur à dire
également une affaire d'oseille, comme dit Stéphane, sauf que c'est pas, on le saura pas tout de suite a priori, de cette façon, mais forcément
il y a, forcément
voilà.
La puissance aujourd'hui, financièrement, Nice a une plus grosse puissance financière que l'OM. Même si sportivement, il n'y a pas de débat aujourd'hui entre les deux situations.
Dans un instant, on aura Jason, supporter marseillais. Il donnera son avis là-dessus. On continue le débat. OM, supporter marseillais, on vous attend. Et ensuite, on passera au reste du mercato du jour avant de parler des affaires en Italie. Ouais. Oui, Stéphane.
Non, j'ajouterai un truc sur Dieng quand même parce que.
On se retrouve dans une minute trente.
Ouais.
À tout de suite.